Moreno Maki, Adieu Chloé, c'est plutôt À la femme, un texte écrit par Huguette Junot, mis en musique par Jean-Yves Poupin et mis en danse par Gérald Chevrolet qui a suggéré à Moreno Maki de se lancer dans ce déhanchement. Alors Gérald, pour finir, je crois que tu as une citation nouvelle à nous donner en conclusion qui montre bien encore une fois comment on peut situer femme, parfum, société.
Oui. Tu me posais la question tout à l'heure de pourquoi les odeurs, les parfums pour les femmes, etc. Il y a d'autres gens qui se sont posés cette question, entre autres Alain Corbin dans un magnifique livre qui s'appelle Le miasme et la jonquille, qui cherche à creuser un petit peu le phénomène social, politique et sexiste du parfum. Et il dit des choses formidables sur les odeurs qu'on veut chez la femme, et je lis juste cet extrait. Le symbolisme envahissant de la femme fleur naturelle et doucement parfumée révèle la ferme volonté de contenir les affects. Les délicates senteurs signent l'image d'un corps diaphane que l'on voudrait simple reflet de l'âme. Ambitieuse stratégie qui tente de désamorcer la menace de l'animalité, d'assagir les pulsions de la femme. On la veut rose, violette ou lisse, surtout pas féline ou musquée. Les images florales expulsent du discours celles qui sont empruntées au cycle carnassier.
Voilà. Wow. Je vais me mettre à écrire quelque chose comme ça pour les hommes. Alors Gérald, écoute, on va rappeler à nos auditrices et nos auditeurs que donc Moreno Maki chante Le Parfum, c'est au Théâtre de Saint-Gervais à Genève du 21 avril, puisque la première est passée, au 1er mai. C'est à 20h30 chaque soir, sauf le dimanche et lundi, et c'est à 19h le jeudi, que vous pouvez réserver en téléphonant au 022 732 20 60.
On a oublié de citer Michel Rochat qui nous a fait la scénographie.
Voilà,
et une scénographie que tout le monde y est.
Qu'il faudra découvrir vous-même. On ne va pas tout vous livrer quand même, hein, parce qu'on en a déjà dit beaucoup, beaucoup, beaucoup. Alors, bonne chance pour la suite, Gérald.
Merci, à bientôt, Catherine.
Quien me difama, ya de mí se aprovechó y a mi lado se ganó más del brillo que reclama. ¿Quién fue que endulzó tu amargura de retama? Por sentir pena de ti, hasta cariño te di y olvidé tu mala fama. Bueno que me pasé a mí por no enseñarle a vivir a mi débil corazón. Suerte que por donde voy nadie señala mi vida y el mundo sabe quién soy. Pero fíjense no más, quien me difama. Un pasatiempo de ayer, la sombra de un mal querer que borré de mi programa. Y nadie te lo va a creer, porque siempre el que no tiene nada que decir es el que más dice. Bueno que me pase a mí por no enseñarle a vivir a este débil corazón. Suerte que por donde voy nadie señala mi vida y el mundo sabe quién soy. Pero fíjense no más, fíjense quién me difama. Un pasatiempo de ayer, la sombra de un mal querer que borré de mi programa. Un pasatiempo de ayer, la sombra de un mal querer que borré de mi programa. Temblores de agonía, y es que te quiero mi vida, y eso me da mucho miedo, miedo, ay, tengo miedo, miedo de perderte, tengo, ay, vida mía, miedo, ay, mucho miedo. Quiero mi vida y eso me da mucho miedo.
La loupée dans Remue Ménage, Radio Zone, Onde Femme 93.8. Et après les parfums, eh bien, nous nous envolons en Russie pour retrouver une femme, deux femmes et un homme. Mais ça vaut la peine de s'envoler dans ce pays très directement en musique tout d'abord. Bonjour Annette, bonjour Evelyne. Nous voilà à nouveau en rencontre après un mois écoulé, un long mois écoulé. Aujourd'hui, vous avez choisi de nous présenter chacune des livres qui évoquent la Russie. Alors, en quelques mots, est-ce que vous pourriez nous présenter chacune votre livre ? Annette ?
Alors, moi, je vais parler d'une femme qui, effectivement, a passé un certain temps de sa vie en Russie et qui a été très intéressée et participante à la révolution bolchevique. Mais en fait, d'origine, elle est allemande. Il s'agit de Clara Zetkin, qui est donc une féministe allemande de la première heure et, entre autres, qui était l'amie de Rosa Luxembourg.
Mon Dieu, on se retrouve, tu nous emmènes d'un mois à l'autre au travers des femmes, de la vie des femmes révolutionnaires. Et toi, Evelyne, qu'as-tu choisi ? C'est plutôt la Russie contemporaine, toi.
Oui, et à travers une actrice que j'ai beaucoup aimée depuis très longtemps, Marina Vladi, et qui est devenue auteure d'un récit sur sa vie avec son mari russe, le poète Vladimir Vysotsky, et dernièrement un roman qui s'appelle Le voyage de Sergueï Ivanovitch et qui nous conduit dans cette Russie qui a voulu ou qui a cru être héroïque en Afghanistan et qui ne l'a pas trop été.
Je crois que là, il y a beaucoup de choses à découvrir, effectivement, derrière cette soi-disant guerre héroïque. Alors, Annette, je crois que c'est toi qui as envie de commencer de nous parler de la vie de Clara Zetkin. Alors, est-ce qu'on fait comme pour Rosa Luxembourg, un voyage à travers sa vie, ou est-ce qu'on parle du personnage ? Pourquoi aujourd'hui on a retenu l'image de Clara Zetkin dans nos histoires ?
Alors, je crois que je pense qu'effectivement, il faut évoquer un petit peu la vie de cette femme et les liens qu'elle a avec la politique de l'époque. Mais j'aimerais peut-être d'abord rendre hommage à l'auteur de cette biographie que j'ai choisi de vous présenter aujourd'hui. Parce que je crois que c'est très, très important de redonner une certaine vie et d'avoir l'occasion de se mettre en contact avec la vie de ces femmes qui ne sont pas forcément très très connues, qui restent très souvent simplement des noms, même pour des féministes engagées comme nous. Et je crois que c'est effectivement très important d'avoir l'occasion de lire un livre consacré à l'une ou l'autre de ces femmes. Aujourd'hui, le livre que je vous présente est donc édité aux éditions ouvrières. C'est un très beau livre. Il contient entre autres des photographies de Clara Zetkin, de sa famille. Et c'est aussi une façon de communiquer avec elle que de retrouver ces photographies. L'auteur, c'est Gilbert Badia, qui est un historien, disons, socialiste connu, qui a beaucoup étudié le mouvement des spartakistes, effectivement donc lié entre autres à Rosa Luxembourg et à Liebknecht, mais qui aussi a fait l'effort de chercher à Berlin-Est, depuis l'ouverture du mur, des documents confidentiels sur la vie de Clara Zetkin, qui a trouvé notamment une quantité de lettres qui n'avaient jamais été lues ou traduites et qui n'avaient jamais été communiquées au public. Et je crois que c'est très très important de saluer le travail de ce biographe. J'aimerais dire aussi que c'est un homme et que j'ai beaucoup, beaucoup apprécié la subtilité, la finesse, le respect avec lequel il parle de Clara Zetkin. Et je crois que c'est assez rare de trouver une biographie sur une femme féministe engagée comme celle-là, écrite par un homme avec autant de délicatesse. Alors je crois que c'est important à retrouver aujourd'hui.
Tu as trouvé plus délicat que la biographie de Rosa Luxembourg écrite par comment s'appelait-il ?
Max Gallou.
Max Gallou, excuse-moi.
Justement, j'ai trouvé que c'était très très différent et que d'une certaine manière, les deux sont deux hommes tout à fait respectueux de la vie de chacune de ces femmes, mais il y a une sorte de contact ou de prise de connaissance qui est très très différente. Chez Max Gallou, il y a une espèce d'enthousiasme qui est à la limite un peu paternaliste, ce qui n'existe absolument pas chez Gilbert Badia, qui est un historien à mon avis plus profond et qui en fait respecte d'une manière très, très importante, l'engagement politique, et qui essaye de réfléchir aussi sur ce qu'elle a fait, mais en même temps ne critique pas, essaye simplement de replacer aujourd'hui certains textes ou certaines déclarations qu'elle a faites, ne reculant pas devant parfois l'évidence qu'elle était naïve ou qu'elle était utopiste. Mais il le dit avec une gentillesse extrême et un respect différent.
Alors peut-être entrons dans le vif de la vie de Clara Zetkin et dans ce livre. Oui, quelles ont été les étapes de sa vie qui t'ont frappée, dont tu as envie de nous parler maintenant ?
Alors, je crois que ce qui a quand même effectivement énormément marqué Clara Zetkin dès sa jeunesse, c'est le fait qu'elle, jeune Allemande, d'une famille, disons, de petite bourgeoisie, mais qui attachait beaucoup d'importance à la formation de ses enfants, et notamment d'elle qui était donc la fille aînée de la famille, elle avait un frère et une sœur. Mais elle a eu l'occasion de faire des études, pas universitaires directement, mais en tout cas l'équivalent d'une école normale à l'époque, hein, dans les années 70 à Leipzig. Mais très vite, elle a pris contact avec des étudiants russes qui venaient en Allemagne pour se former, qui quittaient la Russie, des gens souvent qui venaient de bonnes familles russes, mais qui étaient dans le mouvement révolutionnaire, dans la mouvance révolutionnaire de la fin du 19e siècle. D'ailleurs, elle a eu l'occasion d'aller à ce qu'elle appelle Petrograd à ce moment-là, et c'était Saint-Pétersbourg encore, dans les années 1870-1880. Elle a eu l'occasion là de rencontrer Ossip Zetkin, donc avec qui elle va vivre et se marier, mais plus tard, enfin après avoir eu deux enfants avec lui. Et c'est vraiment l'influence de ces Russes, de ces étudiants russes qui vont l'engager dans toute sa vie. Et toute sa vie, même si elle est allemande d'origine, elle va rester en contact avec des Russes. Elle va d'ailleurs mourir à Moscou. Elle est enterrée au Kremlin, comme les grands révolutionnaires de la Russie. Et toute sa vie aura été un engagement aux côtés de ces Russes. Je crois que ça a vraiment été pour elle, en tout cas, quelque chose de très, très important. Moi, j'ai trouvé aussi très, très intéressant, en lisant ce livre, d'apprendre qu'elle avait été proche de Jules Humberdreau, qui est donc... un chaudefoyer.
Révolutionnaire
et qui comme elle, a passé un certain temps à Moscou aux côtés des dirigeants de l'Internationale qui logeaient à l'hôtel Métropole. Enfin bon, qui étaient en contact, tous ces communistes de la première heure qui venaient de tous les pays européens, qui se retrouvaient à Moscou et qui essayaient de bâtir une nouvelle société. Et je crois que moi, j'ai eu beaucoup, beaucoup de plaisir en fait à comprendre ça de plus près. Et la façon dont c'est raconté en suivant la vie d'une femme comme elle, c'est évidemment un moyen privilégié d'entrer en contact avec ce monde-là. Et on apprend énormément de choses sur l'histoire du socialisme ouvrier et du début du Parti communiste.
Oui, parce que c'est donc pas encore l'URSS que nous avons en mémoire, nous,
en ce
moment, c'est-à-dire l'URSS des goulags, des répressions et d'une destruction petit à petit d'une société et d'un peuple au lieu d'une construction.
Non, pas du tout, mais on se rend compte, et ça c'est un des côtés les plus touchants et intéressants de Clara Zetkin, c'est qu'elle a toujours été extrêmement engagée à gauche jusqu'à la fin. Elle a toujours été assez fidèle à une ligne de parti, mais elle a quand même toujours d'abord respecté ses idées propres. Elle avait des idées très larges, orientées évidemment, mais quand elle n'était pas d'accord avec certains dirigeants communistes ou socialistes, elle ne se gênait pas pour le dire. Elle a été plusieurs fois, notamment à la fin de sa vie, la seule des fameux dirigeants de l'Internationale à voter contre les décisions prises par Staline, par exemple. Et elle le pouvait le faire parce qu'elle était à l'époque la femme la plus connue de tout le mouvement révolutionnaire. Elle avait vraiment une aura extraordinaire. Et en fait, je trouve entre autres que justement c'est important qu'on lui rende une certaine reconnaissance aujourd'hui parce qu'on n'imagine pas à quel point elle était connue à l'époque. Donc si elle pouvait se permettre sans être exclue du parti de dire non à Staline en 1930, je crois que ça prouve qu'elle avait vraiment une importance en tant que personne qui était fondamentale.
Est-ce que tu pourrais nous lire un petit extrait de texte, par exemple, qui illustrerait cette importance, oui. Ce poids dans le mouvement socialiste et communiste?
Oui, ce que j'ai choisi, surtout, c'est plutôt une façon... Comment est-ce qu'elle voit l'évolution du monde et des gens?
Alors moi, j'ai choisi, pour accompagner ta lecture, la musique d'une autre Clara, c'est Clara Haskil, une pianiste roumaine qui s'est réfugiée en Suisse après la guerre et qui accompagne de son piano sur des notes de Monsieur Schubert ta lecture.
D'accord. Ce qui est en jeu à ses yeux, toutefois, ce n'est pas seulement le sort d'une classe, c'est la possibilité pour tous, hommes et femmes, de réaliser pleinement leurs conditions humaines. On retrouve ici la notion de Volles Menschentum, qui était déjà une notion centrale de sa conception de l'émancipation féminine. Il s'agit pour les femmes, comme pour les hommes, de devenir des êtres humains à part entière, des êtres dont toutes les virtualités puissent s'épanouir librement. Et l'objectif de la lutte du prolétariat, c'est de créer pour tous les humains les conditions de cet épanouissement. Cela implique qu'il soit l'héritier de tout le legs culturel de l'humanité et qu'il fasse fructifier cet héritage. En même temps, le prolétariat ne se bornera pas, écrit Clara Zetkin, à s'approprier la culture bourgeoise, il sera forcé d'entreprendre pour commencer un renversement des valeurs. Elle insiste à plusieurs reprises sur l'idée que la lutte de classe du prolétariat est porteuse d'une conception du monde neuve, d'idéaux intellectuels et moraux nouveaux. Chez les opprimés surgit le besoin, le goût d'un art qui exprime cette conception du monde qui sera demain celle de l'humanité libérée tout entière.
Alors voilà, nous avons découvert un texte extrait de cette bibliographie sur Clara Zetkin. Annette, c'est vrai que découvrir quelqu'un par le biais des images, c'est aussi une chose importante. Moi, j'ai remarqué que nos héroïnes, enfin les femmes auxquelles on aura envie de se raccrocher et de se rattacher, on a envie un peu de savoir comment elles ont vécu pour savoir si elles menaient une vie totalement différente de la nôtre et si on est vraiment, on n'aura jamais ce destin parce que de toute façon, on est dans une autre histoire. Est-ce qu'il y a des éléments de ce genre, en dehors des photos qui nous permettent de nous identifier à la personne extérieure, mais est-ce qu'il y a aussi une part de récit de la vie personnelle de Clara Zetkin
dans la vie? Oui, tout à fait. Et notamment, il y a la description de sa vie de jeune femme qui accompagne donc son mari russe à Paris. Ils vivent très chichement, ils ont beaucoup de difficultés. Elle doit travailler d'arrache-pied, elle a les travaux ménagers à accomplir. Elle est mère de deux petits garçons dont elle s'occupe beaucoup. Clara Zetkin a été une mère tout à fait attentive à ses enfants et jusqu'à la fin de sa vie, les deux ont toujours soutenu leur mère à tous les niveaux. Et on voit aussi à quel point elle s'intéresse à, donc à la question féminine. Donc ça a été quand même un grand combat pour elle. On découvre aussi à quel point elle était donc de santé fragile. Elle a dû très souvent aller en sanatorium. À la fin de sa vie, elle ne pouvait plus marcher. Elle était transportée en général en fauteuil dans les assemblées du Reichstag ou à Moscou lors de certaines réunions parce qu'elle n'arrivait plus à se déplacer. Donc elle avait une volonté, un courage extraordinaire. Et en fait, dès sa 40e année, elle était dans un état physique difficile. Donc elle a eu une vie toujours compliquée de ce point de vue-là. Mais on voit aussi, elle a eu une vie sentimentale aussi, pas très mouvementée, mais enfin, elle a eu un premier mari qui est mort quand elle était très jeune. Elle a dû s'assumer seule après. Et ensuite, elle a épousé en deuxième noce un artiste peintre, beaucoup plus jeune qu'elle, ce qui a fait d'ailleurs pas mal jaser, mais qui, pour montrer à quel point...
C'était pas le fils d'une de ses amies ?
Non.
Non ? Vous semblez l'avoir lu dans la biographie de Rosa Luxembourg.
Non, c'est pas comme ça.
Elle avait séduit le fils d'une amie.
Non, c'est le sens inverse, Evelyne. Le fils de Clara Zetkin, Kostia, qui a été un certain temps l'amant de Rosa Luxembourg. Et elle, Rosa Luxembourg, était bien sûr beaucoup plus âgée que lui. C'est dans ce sens-là.
Ah, voilà.
Donc, voilà. Mais effectivement, ces deux femmes ont eu dans leur vie, chacune, une liaison importante. Enfin, pour Clara Zetkin, ça a été d'ailleurs un mariage qui s'est rompu pour elle à la fin de sa vie, ce qui a été très dur, avec un homme beaucoup plus jeune qu'elle, ce qui dénote d'ailleurs pour chez les deux une liberté d'action et
grande
de
vitalité.
Penser. Je ne sais pas si on peut dire comme ça. Tu ne les connais pas.
Non, mais pour l'époque, en tout cas, ça ne devait pas être simple. Ça
ne devait pas être simple. Et en même temps, ça dénote en tout cas, une recherche personnelle d'un certain style. Et en même temps, c'était des femmes très respectueuses d'autres types de traditions, probablement. Mais elles ont osé quand même s'afficher avec des hommes plus jeunes. Elles avaient surtout, je pense, des personnalités tellement fortes qu'elles impressionnaient ces hommes.
Clara Zetkin a participé très concrètement à des rencontres, des congrès de femmes dans le mouvement socialiste de l'époque.
Ah oui, tout à fait. Donc elle a été déléguée à plusieurs congrès. Elle était la déléguée internationale des femmes communistes. Elle a été reçue en Italie, à Tours, en France, à différents endroits, en Amsterdam aussi. D'ailleurs, on raconte bien dans le livre qu'elle est allée plusieurs fois dans ces congrès d'une manière clandestine et qu'elle a dû traverser des frontières cachées. Enfin, c'était vraiment une vie difficile.